Bonsoir à tous. Nous allons continuer notre série donc sur Proverbe. On avait déjà fait deux partages sur Proverbe 30 et on n'était pas arrivé à la fin du chapitre. Donc on va arriver à la fin du chapitre ce soir, je vous le promets, d'une manière ou d'une autre. Donc on va faire la fin du chapitre 30. Proverbe 30 du verset 21 jusqu'à la fin. C'est peut-être Michel qui n'a pas coupé le son. On entend tousser. Voilà, merci. Je vais vous lire deux versets en préambule sur lesquels nous reviendrons après, et puis nous déroulerons le fil de la fin du chapitre. Donc, je vais vous lire juste un verset en Exode, chapitre 4, verset 11. Il nous est dit, l'Éternel lui dit, donc c'est la discussion entre l'Éternel et Moïse autour du buisson ardent. Et l'appel que Dieu donne à Moïse. Et ici, il est dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et il rajoute, va donc, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et un autre verset que je vais vous lire, c'est en, enfin, ce serait plutôt, il y a deux, trois versets qui se suivent, mais c'est en Ésaïe. Chapitre 30, versets 18 à 20, et puis nous reviendrons un peu là-dessus pour faire du lien à la fin. Donc, Ésaïe 30, 18, il est dit, Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Et voilà, on dira la suite si ça nous intéresse tout à l'heure, mais pas forcément. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 20, mais nous reviendrons à cela un petit peu plus tard. Donc, on va commencer à venir sur ce qui nous. Voilà. Alors, hop, attendez, je continue mon enregistrement. Là. Alors, Proverbe 30 au verset 21, je ne sais pas si vous vous rappelez précédemment, on avait parlé de proverbes numériques, hein, donc dans lesquels il était question de, oui, il était question de numéros, tout simplement, où il est dit, il y a trois animaux et même quatre, etc., etc. Et donc là, nous avons trois proverbes numériques, et puis une conclusion avec deux versets à la fin. Et je pense que contrairement à d'autres parties que nous avons vues précédemment dans Proverbe 30, il y a une espèce de lien qui se tient sur cette fin de chapitre. Et on va essayer d'être clair et de donner du sens à ce lien qui se fait ici à travers ces trois proverbes numériques. Et voilà, tout ce lien qui est fait. Et juste une chose à savoir, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à ça, oui, voilà. Proverbe, c'est écrit dans l'Ancien Testament, donc ça s'adresse. Enfin, c'est assez intéressant parce que ça s'adresse finalement pas forcément exclusivement à Israël. Ça s'adresse de manière plus générale quand même à l'humanité, même si c'est dans un contexte où l'auteur, qui est la plupart du temps Salomon, même si là en l'occurrence ce n'est pas Salomon, c'est Agur, sont forcément en Israël sous la loi. Et donc avec un contexte qui n'est pas nécessairement le nôtre, avec des impératifs qui ne sont pas exactement les nôtres, bien sûr. Et je dis ça, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, je vais appliquer certaines choses à l'Église. Et il est évident que la première intention de l'écrit n'est pas l'Église. Mais la première intention de l'auteur, je pense, elle est le peuple de Dieu en général. Donc, ben, du coup, dans son contexte, a priori, c'est Israël, mais c'est aussi les craignants de Dieu qu'il pouvait y avoir à travers le monde, en tout cas autour du bassin méditerranéen, et de manière forcément appliquée peut-être plus précisément dans un avenir un peu enfin, lointain, pas très lointain, mais un petit peu quand même, c'est forcément c'est nous, c'est l'Église. Alors, pour l'instant, vous avez encore rien entendu, vous ne savez pas trop de quoi on parle. Donc, il est dit au verset 21, trois choses font trembler la terre. Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Donc, la première chose que je vais quand même tout vous lire et on reviendra. Donc, mais en tout cas, la première chose que l'on pense quand on lit ça, on se dit, tiens, il y a une connotation qui est peut-être plutôt négative. Donc, quelque part, en quoi est-ce que ça nous concernerait, nous, en tant que peuple de Dieu? Mais nous allons y revenir. Verset 24, il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Et donc on s'arrête juste rapidement. Là, on a quatre animaux et on se dit, ah ben tiens, là, c'est beaucoup plus positif. Il y a une espèce d'enseignement de sagesse et nous y retournerons évidemment dans un petit moment. Ensuite, dans la foulée, nous avons troisième proverbe numérique. Il y en a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé ou le bouc. Donc ça en fait trois. Et le roi à qui personne ne résiste. Donc là, il n'est pas nécessairement parlé d'animaux. Et de toute façon, la formulation il y en a trois et même quatre en hébreu ne spécifie pas nécessairement des animaux. Mais comme dans la première partie, l'auteur derrière il désigne des animaux, ça a été traduit par il y a trois animaux, etc. Mais en fait, c'est la même formulation. Il y en a trois et même quatre. Ça peut être des animaux, ça pourrait être des choses. Ça peut être des gens, voilà. Donc, il n'y a pas de précision à ce niveau-là. Et verset 32, il est dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Alors, nous allons revenir au départ, et comme je vous dis, ces trois proverbes numériques sont un ensemble. Et en fait, le premier, on va s'y attarder point par point. Mais en fait, le premier, il parle du peuple de Dieu. Et donc, par extension et par application pour nous aujourd'hui, il parle de l'Église. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'il est dit, trois choses font trembler la terre, il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Et en réalité, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, la vie spirituelle, c'est ce qui fait trembler la terre parlant du monde naturel qui fonctionne, on va dire, depuis des siècles et même quelques milliers d'années. Voilà, d'une manière qui est répétitive, donc sur cette terre, tout simplement. Donc il y a trois choses qui font trembler la terre, il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. Et donc ce que on va lire derrière, effectivement, je vous l'ai lu, c'est pas, ça semble pas très positif ou c'est bizarre, c'est bizarre. Il y a des trucs c'est pas positif, il y en a d'autres c'est bizarre. On pourrait être là, lire ça et se positionner, se dire ah ça j'aime pas. Ça me convient, ça s'applique à moi, ça ne s'applique pas à moi, c'est un peu bizarre. Donc il est dit, un esclave, au verset 22, un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient à régner. Et si vous voulez, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous sommes dans ce monde? Nous sommes des esclaves, mais un jour nous allons régner. Et nous allons même régner sur ce monde, sur cette terre-ci, en fait. Ça, c'est une promesse. Pour l'Église. Et c'est un encouragement pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux me regarder comme étant un esclave au vu de ce monde. Je suis dans un monde qui tourne comme il tourne, je n'y comprends pas grand-chose. J'y ai une toute petite part, je n'ai pas une grosse influence. Je voudrais que les choses soient autrement. Et donc, j'ai l'impression d'être un esclave qui est obligé de suivre comment dire, le trajet de la roue. Il y a une roue qui s'impose à moi. Et je ne peux pas faire autre chose en fait que de suivre le trajet de la roue. Et je me dis, ben, je suis juste un esclave et je ne peux rien faire dans ce monde. Et en fait, si je peux faire une grande chose, en étant un être spirituel qui est en connexion avec celui qui a tout créé et qui me promet un avenir, je peux être une personne qui fait trembler la terre. Une personne qui fait trembler la terre. Et qui peut, comment dire, d'une certaine manière, être insupportable ou décontenancer le train de ce monde, en fait. Donc, je suis un esclave, mais je peux décontenancer le train de ce monde. Et un jour, je vais venir à régner, et pas à cause de moi, on le sait bien. Le deuxième point, la deuxième partie du verset 22, un insensé, donc une autre folie, c'est un insensé qui est rassasié de pain. Un insensé qui est rassasié de pain. Ça, c'est aussi intéressant parce que là, encore une fois, je ne vais pas m'attarder, mais un insensé, c'est la manière dont je peux me voir vis-à-vis de ce monde. En plus, quand j'essaye d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir aux conseils, aux préceptes de mon Dieu, je suis d'autant plus un insensé par rapport à ce monde, parce qu'il fonctionne autrement. Il fonctionne autrement, et moi, je peux avoir l'impression d'être, on va utiliser un autre mot, on va dire, d'être un marginal. Voilà, je suis un peu un marginal dans ce monde, parce que je pense autrement, parce que je vis autrement, parce que je fonctionne autrement, et donc je peux être vu comme étant un bizarre. Oui, mais cet insensé, il est rassasié de peine. Il est rassasié de peine parce que vous savez quoi? Spirituellement, dans notre âme, Dieu nous rassasie. Et les gens de ce monde, peut-être qu'ils ont l'impression de ne pas être insensés, d'être dans le train, le courant de ce monde, d'être dans ce qui se fait, d'être à la mode, d'être dans la pensée dominante. Mais dans leur âme, il y a une famine. Il y a une famine. Et moi, ma part, c'est peut-être de leur montrer un insensé qui est rassasié de peine. Et ça perturbe. Ça perturbe, effectivement, ça fait trembler, ça déstabilise ce monde. Mais les gens ont besoin de trembler et d'être déstabilisés en voyant quelque chose qui est incompréhensible pour eux. Et incompréhensible, et avec une seule explication, c'est que c'est Dieu qui le fait. Tout à l'heure, nous avons lu, et on y reviendra peut-être, en Exode 30, versets 18 à 20, notamment au verset 20. Donc, le premier verset, il est dit que Dieu veut faire grâce. Et au verset 20, il est dit que Dieu donne, hop, que je le paraphrase pas bêtement, il donne du pain dans l'angoisse. Et il donne de l'eau dans la détresse. Du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Et vous savez, le tiraillement entre la chair et l'esprit à l'intérieur de moi, le tiraillement entre la vie spirituelle et les aspirations spirituelles que je peux avoir et ce monde qui fonctionne d'une manière complètement différente, pour ne pas dire d'une manière déraillée, on va dire. En tout cas, pour Dieu, cette manière est déraillée, mais peu importe. Et bien en fait, ça peut aussi produire des situations d'angoisse et de détresse dans ma vie parce que j'ai l'impression d'être inadapté à ce monde. Mais en fait, c'est pas complètement faux. Je suis inadapté à ce monde parce que j'essaye de m'adapter de plus en plus à un autre fonctionnement qui est celui de Dieu et qui effectivement n'est pas un fonctionnement où je cherche à gagner pour moi-même, je cherche à être au-dessus des autres, etc. C'est un fonctionnement qui est différent, c'est un fonctionnement où je donne parce que je sais que je suis rassasié. Je donne parce que je sais que j'ai reçu. Et par conséquent, dans cette angoisse, on va dire, ou cette détresse que je peux expérimenter, Dieu me donne du pain dans mon âme, dans mon esprit, et Dieu me donne de l'eau dans la détresse. Il me laisse pas dans cette situation-là. Vous savez, il est dit dans 1 Corinthiens 10, 13, je crois que si je ne me trompe pas, il est dit donc, toute tentation, il n'y a aucune tentation qui n'ait été humaine et aucune tentation n'a été au-delà de vous. Et il donne toujours le moyen de sortir de la tentation. Et je pense que ça, c'est une chose. On peut élargir, comment dire, l'idée de la tentation, que ce soit à l'épreuve, que ce soit une situation qui ne nous va pas, quelque chose qui essaye de me mettre hors jeu de la vie de Dieu. Donc, ce n'est pas toujours la tentation comme on peut s'y l'imaginer. Ça peut être beaucoup plus subtil, parce que le diable est subtil. Mais dans cette situation-là, n'oublions pas une chose. Le diable veut me mettre hors jeu et il apporte la tentation ou des choses un peu équivalentes qui viennent produire des problématiques à l'intérieur de mon âme, qui viennent produire une lutte, une guerre, des conflits, des complications. Mais sachons que Dieu est capable de donner du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Et ça, c'est important pour nous. Troisième point, au verset 23, une femme dédaignée qui se marie. C'est-à-dire, mais attends, on n'est pas une femme dédaignée quand même, nous, pas arrêtez, quoi. La même notion que dans les deux points précédents. Comment est-ce que je me vois? Je peux me voir effectivement comme une femme dédaignée. Il y a des versions qui disent, ils disent pas une femme moche, mais une femme stupide ou enfin vraiment pas intéressante, quoi. Il y a différents mots qui sont donnés, qui peuvent être traduits ici. Et si ce n'est dédaigné, en tout cas, c'est oui, en tout cas une femme qui est, on va dire, pour le moins, pas intéressante sous différents plans. Et encore une fois, c'est comme ça que je peux me voir. Mais là encore, quelle est l'espérance que Dieu nous donne? C'est que cette femme dédaignée, elle va se marier. Elle va se marier. Parce que nous, un jour, nous allons expérimenter les noces de l'agneau. nous allons être l'épouse de Christ. Et une chose qui est encore plus importante à comprendre là-dedans, c'est que pourquoi est-ce que le monde tremble devant cette femme dédaignée qui se marie? C'est parce qu'en fait, derrière le monde, c'est le diable qui tremble. Et pourquoi il tremble? Parce que lui, il sait que cette femme dédaignée que nous sommes, nous, l'Église, elle va être mariée. Et en fait, elle va être, cette femme dédaignée qui est l'Église, elle va être à la place que convoitait le diable. Le diable voulait être dans la Trinité. Et nous, nous allons être, si on peut appeler ça ainsi, nous allons être le quatrième intervenant, si on peut dire, de la Trinité. Puisque, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, un jour, nous serons comme lui. Nous allons recevoir, nous allons être faits de la nature de Dieu. Alors, nous ne serons pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y aura pas plus proche de Dieu que nous, en fait, en tant qu'Église. Donc, nous serons à la place que convoitait le diable. Et du coup, pour le diable, nous sommes une femme dédaignée. Une femme pas intéressante. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ce sont des vermisseaux, ces êtres humains, qui ont cru dans la grâce de Dieu. Ce sont des nullités. Ce sont des pécheurs. Ce sont des gens qui devraient avoir rien du tout. Ce sont des gens qui sont diamétralement opposés et séparés de la gloire et de la sainteté de Dieu. Et oui, mais nous allons être l'épouse de Jésus-Christ. Et nous allons avoir la part que le diable aurait voulu avoir et qu'il n'a pas, il n'a pas pu avoir parce que l'orgueil a été découvert en lui, tout simplement. Quatrième chose, il est une servante qui hérite de sa maîtresse. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Là, on est un petit peu sur la même notion. Aujourd'hui, nous sommes peut-être des servants et un jour, nous allons hériter parce que nous allons être dans le royaume millénaire, en tout cas pendant un temps, et nous serons auprès de Jésus-Christ. Donc, nous sommes une servante qui hérite de la maîtresse. Vous savez quoi? C'est intéressant parce que les choses qui sont dites ici, je ne vais pas dire toutes, mais un esclave qui vient à régner, ça n'existe pas. À ma connaissance, ça n'a jamais eu lieu, un esclave qui vient à régner. Une femme, un insensé qui est rassasié de pain, ça c'est possible. Une femme qui est dédaignée et qui se marie, ça c'est possible aussi, effectivement. Et une servante qui hérite de sa maîtresse, ça n'arrive pas non plus. Ça ne peut que s'appliquer à l'Église. Ça ne peut que s'appliquer au peuple de Dieu. Sur terre, ça n'existe pas. Donc non seulement ça fait trembler, mais de toute façon, ça n'existe pas. On n'en a pas d'exemple. Mais on en aura un exemple prochainement sur terre pendant le millénium. Donc ça, vous savez quoi? On va résumer ces quatre points, ou ces trois versets, et ces quatre points de ce proverbe numérique par la position du peuple de Dieu. Ça, c'est la position du peuple de Dieu. Et ça, si c'est noté, et notamment en premier, c'est que nous avons besoin de nous en nourrir, de le penser, de le savoir, de le croire. Parce qu'une chose qui est intéressante, c'est que, vous savez, il y a ce proverbe français, et peut-être pas que français d'ailleurs, qui dit, l'espérance fait vivre. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, hein. L'espérance, ça fait vivre. Mais vous savez, c'est un peu vrai, hein? C'est un peu vrai. Le jour où vous n'espérez plus que la situation peut s'améliorer, vous n'essayez plus de l'améliorer, la situation. Vous vous laissez crouler, en fait. Le jour où vous pensez qu'il n'y aura pas de lendemain meilleur, vous vous écroulez intérieurement. Parce qu'il n'y a plus rien à se raccrocher. Je peux supporter le présent qui est difficile parce que je crois encore qu'il y aura un demain qui peut être différent. Mais quand je ne le crois plus, ben je m'écroule avec le présent, en fait. Je m'écroule avec le présent, tout simplement. Et donc, d'où l'importance de méditer la position du peuple de Dieu et par conséquent, ben, notre position et la réalité qui n'est pas visible à nos yeux, mais qui est peut-être visible aux yeux de ce monde. Parce que si il est dit que la terre tremble et qu'elle oui, qu'elle tremble et qu'elle ne supporte pas ces choses-là, c'est que, alors que nous n'en sommes pas conscients, nous sommes peut-être, nous voyons seulement selon la première partie de chaque déclaration, mais il est probable que ce monde perdu voit ou entrevoit la deuxième partie de la déclaration. Le fait que nous sommes enfants de Dieu, le fait que nous sommes nourris par du pain, le fait que nous allons avoir un mari et que nous sommes aimés alors que eux cherchent l'amour, etc., etc. Donc, premier point, la position du peuple de Dieu. Deuxième point, donc les versets suivants, et ça va être du coup plus pratique. Enfin, plus pratique, je ne sais pas si c'est plus pratique, mais en tout cas, ça rentre dans des choses qui sont plus pratiques. Verset 24, il y a sur la terre quatre animaux petits. Toujours la même notion, petit. Le peuple de Dieu, il est petit, il est insignifiant, petit. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Sages, ce n'est pas toujours comme ça qu'on se décrirait, mais là, il est dit qu'ils sont sages. Et là où nous sommes sages, c'est que lorsque nous appliquons les principes qui sont dans le fonctionnement de ces animaux. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisi avec les mains se trouve dans les palais des rois. Et là, vous avez trois animaux donc petits. Alors des fois, la traduction de certains animaux n'est pas la même. Pour Daman, il y en a qui parlent d'un lapin ou de peu importe. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est ce qu'il est dit sur chacun des animaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des réponses qui sont données à la petitesse de ces animaux. Et la réponse qui est donnée, pour la fourmi, c'est la prévoyance. C'est la prévoyance. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous sommes prévoyants? Préparons en été la nourriture? Est-ce que quand Dieu donne de la nourriture, est-ce que je la prends? Est-ce que je remplis mes greniers? Est-ce que je me nourris? Est-ce que je stocke la doctrine dans mon âme quand j'ai l'occasion de l'entendre? Ou est-ce que c'est un message de plus, c'est un enseignement de plus, c'est comme d'habitude, quoi. Voilà, c'est oui, Dieu m'a parlé, mais bon, ben voilà, peu importe, demain, c'est demain. Non, non, soyons comme la fourmi, amassons la nourriture, parce que nous sommes petits, faibles, et un jour, il y aura l'hiver. Et pour avoir du pain pendant l'hiver, il faut que j'amasse pendant l'été. Donc, quand Dieu me donne, c'est ça l'été. À moi d'amasser, de garder, de stocker, de mémoriser, de stocker d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est la prévoyance. Le deuxième, les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Toujours peuple sans puissance, mais ils cherchent un refuge. Quand je réalise ma petitesse, quand je réalise ma fragilité, quand je réalise que le monde autour de moi, il est méchant, il est dangereux. Où est-ce que je cherche refuge? Dans le nouveau président de la République? Dans une nouvelle loi votée au Parlement? Dans l'intervention d'un allié puissant militaire? Dans quoi? Dans le fait que j'ai une famille, que je suis marié, que j'ai des enfants? Dans quoi est-ce que je cherche refuge? Eh bien, le refuge, il est en Dieu, il n'est pas ailleurs. Et j'ai besoin d'apprendre toute ma vie à trouver refuge en Dieu. Parce que souvent, je vais me retrouver aux abois par rapport aux situations de ce monde qui peuvent être plus ou moins éloignées de moi. Mais je vais être aussi aux abois peut-être par rapport à la réalité de la complexité de mon âme et de mes mauvais choix, de mes mauvaises tendances, de ma chair qui surnage et que j'ai l'impression peut-être des fois de voir plus grande que l'Esprit de Dieu, que les arts de l'Esprit qui m'ont été donnés. Hein? Donc, eh bien là, j'ai besoin de trouver un refuge et le refuge, il est en Dieu et il est sûr et il est vrai. Ensuite, il est dit au verset 27, les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Là, il y a un commentateur qui parle de l'ordre. Et c'est vrai que ça parle entre autres de l'ordre comme réponse à la petitesse, mais pour moi, ça ne parle pas que de l'ordre et ça ne parle pas prioritairement de l'ordre. Ça parle d'autre chose. Ça parle de... Attendez, hein, il est où? Voilà. Ça parle... alors, non, l'ordre d'audace. Oui. Voilà, c'est ça. Ça parle d'ordre, c'est vrai, mais ça parle d'unité. Ça parle d'unité. Parce que finalement, les sauterelles qui agissent ensemble, il est dit qu'elles n'ont pas de chef de roi. Pourquoi elles n'ont pas de roi dans l'image avec le peuple de Dieu? Elles n'ont pas de roi parce que leur roi, il n'est pas ici, il est au ciel. Il est dans l'esprit, leur roi. Notre roi, c'est Jésus-Christ, et il n'est pas là, visible devant nous. Donc nous sommes comme des sauterelles, nous sommes tout petits, mais ensemble, nous pouvons faire des choses. C'est intéressant quand les espions ont fait leur rapport, ils ont dit, nous étions comme des sauterelles devant des géants. Et oui, mais personne n'a dit le contraire. Par contre, il aurait fallu penser une chose, c'est que nous sommes des sauterelles, oui, mais nous sommes beaucoup de sauterelles. Nous sommes le peuple de Dieu. Et beaucoup de sauterelles font beaucoup de dégâts, même à des géants. Et nous, la réalité que nous avons besoin d'expérimenter spirituellement dans ce monde, c'est que nous sommes individuellement, oui, des petites sauterelles qui ne peuvent pas faire grand-chose. Mon chat, il peut chiquer une sauterelle et la bouffer, c'est vrai. Mais beaucoup de sauterelles, ça fait des nuages et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans les récoltes et ça fait des dégâts sur toutes les personnes qui sont en dessous. Donc, il y a une puissance, certes, dans l'ordre, c'est important, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas d'ordre. L'ordre seul est insuffisant, mais en même temps, il n'y aura pas d'unité s'il n'y a pas d'ordre. Et donc, la force, elle est dans l'unité qui est le résultat de l'ordre de ces sauterelles. Elles n'ont pas de roi. Mais elles savent, pour l'image que je veux donner, qu'il y a un roi quelque part et qui induit un ordre. Et cet ordre, c'est cette unité. Et donc, la force se retrouve, une force dans notre faiblesse se retrouve dans cette unité. Quatrième point, quatrième animal, c'est le lézard saisi avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Donc là, c'est intéressant parce que lui, finalement, il fait rien. Il fait rien, mais donc le quatrième point, donc vous avez la prévoyance, vous avez le refuge, vous avez donc l'unité qui va de pair avec l'ordre. Et le quatrième point, c'est l'audace. C'est l'audace. C'est intéressant parce qu'en fait, le lézard, il est petit, il est tout fragile. C'est pareil, mon chat, des fois, il chique un lézard, il lui coupe une queue, il vous le ramène, il est encore vivant. Donc, je veux dire, il ne peut pas faire grand-chose, le pauvre lézard, hein. Mais il se retrouve dans la maison, il peut se retrouver dans les palais des rois en fait. Et on peut le prendre par la main, mais en fait, il est dans le palais des rois. Il est dans le palais des rois. Et nous sommes peut-être un lézard, mais nous allons spirituellement, nous vivons dans la maison de Dieu. Nous vivons dans la maison de Dieu. Nous sommes dans le plus grand palais en fait, à cause de l'audace. L'audace d'être des enfants de Dieu. Et donc ça, ce sont les quatre points pratiques pour l'Église à appliquer de manière concrète au quotidien, si vous voulez. Donc je vous les redis, la prévoyance, le refuge, l'unité avec l'ordre et donc l'audace. Oui, juste un autre point, j'ai mis l'audace, mais on peut mettre autre chose dans l'audace. Qui peut aller de pair, tout comme j'ai mis l'unité de manière préférentielle à l'ordre, mais qui y va avec. Ici, avec l'audace, il y a une conséquence sur l'audace, en fait, c'est l'innocence. Quand vous n'êtes pas innocent, quand vous êtes conscient de vous-même, vous n'êtes pas audacieux. Et vous n'allez pas aller dans le palais du roi. Donc, l'audace est la résultante d'une forme d'innocence. Donc, à comprendre que cette innocence, quelque part spirituellement, cette forme de faiblesse par rapport à ce monde est une force que nous avons et qui fait que nous sommes audacieux spirituellement. Et ensuite, donc, nous avons une autre série, donc troisième proverbe numérique. Verset 29, il y en a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé. Ou le bouc. Alors, il y en a qui traduisent à la place du cheval, je crois qu'ils traduisent le coq sur ses ergots, mais peu importe. On comprend l'idée de la prestance et on comprend l'idée de la force qui est derrière, en fait. Donc, le cheval tout équipé ou le bouc. Et donc, le quatrième, et le roi à qui personne ne résiste. Et c'est intéressant parce que les quatre qui sont décrits ici, là, en fait, ça ne parle plus du peuple de Dieu. Ça parle des forces naturelles dans ce monde qui tremble de choses insensées. Eh bien, ça, ce sont les forces naturelles. Et là où l'auteur veut arriver à une leçon, c'est que ça, il faut pas qu'on s'y appuie dessus, justement. Le lion, il est beau, le cheval tout équipé, il est très bien. Et le roi, il est, comment il est dit ici? Il est imbattable, en gros. Non, il n'est pas dit ça comme ça, mais pas loin. Il est dit, et le roi à qui personne ne résiste. Ça, ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, ce n'est pas d'être le roi à qui personne ne résiste. Notre ambition, ce n'est pas d'être un cheval tout équipé. Notre ambition, ce n'est pas d'être un bouc qui fonce tête baissée. Notre ambition, ce n'est pas de manifester de la force. Notre ambition, ce n'est pas, comme il est dit ici, d'être le lion, le roi des animaux que tout le monde craint. Non, ça, c'est l'homme naturel c'est l'ambition de l'homme naturel. Et nous, nous ne devons pas rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que, au verset 32, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. C'est-à-dire, retiens ce qui veut sortir de toi et qui n'est pas bon, qui est la résultante de l'orgueil. Et cet orgueil, il vient d'où? Eh bien, il vient du fait que, plutôt que de vouloir prendre comme exemple les quatre animaux précédents qui étaient petits mais sages, j'aspire à être un des quatre intervenants de la troisième parabole, ou de la, pas parabole, mais du troisième proverbe, en fait, numérique. J'aspire à ça. Et quand j'aspire à cela, l'orgueil s'élève en moi. Et quand l'orgueil s'élève, il m'est demandé de mettre la main sur ma bouche pour éviter de laisser justement proclamer, manifester cet orgueil. Et le conseil, il est là au verset 33. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des de la colère, oui, produit des colères, des querelles, pardon. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce verset 33, le dernier verset de ce chapitre, il conclut. Et c'est intéressant parce que verset 32, il est dit de mettre sa main sur la bouche, donc d'apporter une pression pour éviter que le mal sorte. Et début du verset 33, car la pression du lait produit de la crème. Ça, c'est positif. La pression du lait, ça produit de la crème, c'est positif. Ça, c'est l'image de mettre sa main sur sa bouche pour arrêter le mal qui va sortir de moi, arrêter l'orgueil qui va se manifester de moi. Mais après, vous avez une autre forme d'oppression, de pression, pas d'oppression, qui elle, par contre, doit être évitée et qui ne sera pas évitée si je ne fais pas la pression sur ma bouche, qui est comme la pression du lait qui produit de la crème. L'autre pression, c'est donc la pression du nez qui produit du sang et la pression de la colère qui produit des querelles. Et chose intéressante, c'est qu'en hébreu, le mot pour nez et le mot pour querelle, c'est le même. Donc il y a un jeu de mots qui est fait ici. Et donc, ces deux parties cette deuxième partie du verset, pardon, ça va ensemble. La pression du nez et la pression de la colère, pardon, c'est la même chose. C'est la résultante de l'orgueil du troisième proverbe numérique. Quand je veux me prendre pour le lion, quand je veux me prendre pour le cheval tout équipé, quand je veux être le roi à qui personne ne résiste, je suis en train de produire une pression, mais c'est la pression du nez qui va produire du sang, et c'est la pression de la colère qui va produire des querelles. Mais je suis appelé à exercer une autre pression. C'est la pression du lait qui va produire la crème. Et cette pression-là, elle est comment? Eh bien, elle est quand je mets la main sur ma bouche pour arrêter, comment dire, l'émanation de ma chair, tout simplement. Et on va terminer avec ce qu'on a lu au début en Exode 4:11, pour rester dans l'image de cette bouche et de cette main et de cette pression. Quand Dieu parle à Moïse et que Moïse donne des excuses pour ne pas rentrer dans l'œuvre que Dieu lui propose, et là encore c'est intéressant, c'est que l'œuvre que Dieu lui propose, c'est l'œuvre que lui-même s'était proposée 40 ans auparavant. Qu'il a essayé de faire dans la chair, on va dire, ou en tout cas avec ses moyens naturels. Donc, comme le lion, comme le cheval équipé, comme le roi qui personne ne résiste, et il s'est pris une gamelle. Et 40 ans plus tard, Dieu lui fait une nouvelle proposition, et là, il veut plus avancer. Parce que la seule chose qu'il connaît de lui, c'est juste la petitesse. ce n'est pas les solutions aux animaux petits. Et il ne connaît pas la pression de la main sur la bouche, en fait. Et ici, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, l'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et donc voilà, on va juste terminer là-dessus avec le fait que dans ce proverbe 30, nous avons la position de l'Église, nous avons les conseils pratiques pour les enfants de Dieu et nous avons, je dirais, la prévention par rapport on va dire, aux œuvres de la chair. Voilà. Et je voudrais juste terminer avec, on va inventer un titre pour terminer. Vous voyez, on va mettre un titre à la fin au lieu du début. On va inventer un titre. Et le titre, on va dire, peut-être qu'il ne s'adapte pas très très bien avec ce que j'ai dit ce soir, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Je vais dire tout simplement que qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Ici, dans ces proverbes, il nous est donné des éléments naturels pour comprendre les réalités spirituelles. Et les éléments naturels, c'est Dieu qui les a mis, c'est Dieu qui les a faits, comme la bouche, tout comme il rend muet ou sourd. Et c'est lui qui les maîtrise et tirons les enseignements de ce que Dieu a fait. Voilà. Amen.